de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, on se rencontre avec moi, Tiwi, et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Voici le journal d'aujourd'hui, le 14 septembre 2020. On commence par le nombre total de cas de COVID-19 en Inde dépasse 4,7 millions. Le nombre de victimes aux États-Unis à l'incendie de forêt est passé à 28 mortes. La Russie commence à envoyer la première vague de vaccins COVID-19. Bakamla tente toujours d'expulser le navire de garde-côte chinois de la mer du nord de Natuna. Victoria, en Australie, commence à assouplir les restrictions sociales. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a rappelé que les opportunités d'exportation de la pêche vers la Chine sont grandes ouvertes. Le ministre des Travaux publics et du Logement public, UPUPR, a invité les pays du G20 à renforcer la coopération en matière de gestion de l'eau. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le nombre de cas de COVID-19 en Inde a dépassé la barre des 4,7 millions dimanche dernier. Selon le ministère indien de la Santé, plus de 94 000 nouveaux cas ont été signalés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas à 4 754 356. L'Inde a enregistré une augmentation quotidienne de plus de 90 000 cas pendant 5 jours consécutifs. En outre, au moins 1114 patients atteints de COVID-19 sont décédés en un jour, portant le nombre de victimes à 78 586. Les experts pensent qu'en fin septembre, le nombre total de cas en Inde dépassera probablement celui des États-Unis. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19 avec le plus grand nombre de cas et décès au monde. Le nombre de victimes causées par les incendies de forêt et de terre en Californie, en Oregon et à Washington, aux États-Unis, est désormais passé à 28 morts dimanche dernier. Cet incendie de forêt dure depuis la mi-août dans les trois États situés sur la côte ouest des États-Unis. Au total, 19 gens sont morts en Californie, 8 citoyens dans l'Oregon et un enfant à Washington. Outre les victimes décédées, les incendies de forêt qui ont fait rage dans les trois États ont fait des dizaines de gens rapportés disparus et des dizaines de milliers d'habitants ont fui pour se sauver. Une fumée épaisse et insalubre complique également les efforts d'évacuation. Des milliards de gens sont morts chez eux en Oregon, dont Lori Johnson. la Russie a expédié un certain nombre initial de premiers vaccins contre le coronavirus enregistrés au monde dans toutes les parties de son territoire. L'envoi a été effectué lorsque les autorités ont testé le système de délivrance de médicaments indispensables. Le ministre russe de la Santé, Mikhail Mourashko, aurait déclaré dimanche dernier par Russia Today que la formule devait être livrée lundi. Mourashko a déclaré que le gouvernement russe testait actuellement les chaînes d'approvisionnement pour garantir un système de livraison robuste dans 85 régions du pays. En plus de tester l'efficacité et l'innocuité du vaccin lui-même, le gouvernement estime qu'il est très important d'assurer une distribution efficace aux citoyens, en particulier ceux à haut risque. L'Agence de sécurité maritime ou Bakamla de la République d'Indonésie tente toujours d'expulser les navires de garde-côte chinois qui entrent dans la juridiction indonésienne dans la zone économique exclusive indonésienne ou dans la mer du Nord de Natuna, dans les îles Riau. Le chef de Bakamla RI, le vice-amiral Ulaksdia Aan Kurnia, par le biais de son réseau social dimanche dernier, a déclaré que la communication était actuellement faite dans le but de faire sortir le navire de garde-côte chinois de la mer du Nord de Natuna. Aan a ajouté que le navire de garde-côte chinois est entré dans la zone économique exclusive indonésienne depuis samedi dernier. L'État de Victoria en Australie assouplit progressivement les restrictions sociales. Le gouvernement victorien a déclaré que la décision avait été prise après que le taux d'infection quotidien à l'épicentre de l'épidémie de virus corona en Australie a commencé à baisser. Dimanche dernier, le gouvernement de l'État a signalé 41 cas d'infection et 7 cas de décès liés au virus corona. À cette occasion, le gouvernement victorien a également annoncé une aide financière de 3 milliards de dollars australiens pour les affaires dans cet État. Le nombre de cas quotidiens de la deuxième vague d'épidémie de virus corona à Victoria commence à diminuer. Au plus fort de l'épidémie au début du mois dernier, l'État a signalé 700 nouveaux cas par jour. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche rappelle aux acteurs commerciaux du secteur maritime et halieutique national que les exportations de produits de la pêche vers la République populaire de Chine sont largement ouvertes en ce moment. Actuellement, la Chine commence à se remettre de sa récession et ses opportunités de marché sont grandes ouvertes. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire de l'Agence de quarantaine des poissons, de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Hari Mariadi, dans un communiqué à Jakarta dimanche dernier. Il a rappelé qu'actuellement, les produits de la pêche indonésienne avaient été acceptés dans 158 pays du monde et que l'un des plus grands marchés d'exportation des produits de la pêche indonésienne était la République populaire de Chine. Le ministre des Travaux publics et du Logement public, ou abrégé en PUPR, Basuki Hadi Mulyono, invite les pays membres du G20 à renforcer la coopération au milieu de la pandémie de COVID-19, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de l'agriculture. Le ministre Basuki a déclaré dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche dernier que pendant la pandémie de COVID-19, le ministère de PUPR avait décidé de jouer un rôle actif dans la réalisation d'une disponibilité durable de l'eau, la gestion de l'assainissement et de la santé environnementale à travers un certain nombre de programmes. Le ministre Basuki a déclaré que le premier programme lié à la gestion de l'eau et à l'agriculture, qui est actuellement en cours de faire avec le ministère de l'Agriculture et le Développement Food Estate sur environ 165 000 hectares dans une zone de tourbière ex-projet dans la province du Kalimantan Central. Ceci est fait pour anticiper la menace de sécheresse et des crises alimentaires à l'avenir. Le deuxième programme lié à la gestion de l'eau, qui est également important et ne doit pas être ignoré, est la réduction du risque de catastrophes liées aux inondations. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui. Intitulé « La Chine envahit à nouveau la juridiction indonésienne ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, un navire de la garde côtière chinoise a de nouveau été repéré errant dans la zone économique exclusive indonésienne dans la mer du Nord de Natuna samedi matin, 12 septembre 2020. Ouais. 2020. Le navire chinois a été détecté vers 10 heures heure locale sur le radar et le système d'identification automatique du navire de l'Agence de sécurité maritime KNNIPA 321 et a été immédiatement invité à quitter la juridiction indonésienne. Via la radio VHF, canal 16, KNIPA 321 a posé des questions sur les activités du navire de la garde côtière chinoise. Lors de la communication, ils ont insisté sur le fait qu'ils patrouillaient dans la zone à 9 lignes de tirée qui, selon eux, est le territoire de la Chine. Le personnel de KNIPA 321 a ensuite expliqué que sur la base de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer UNCLOS, l'existence de la ligne à 9 tirés n'était pas reconnue. Le navire de la garde côtière chinoise se trouvait dans la zone économique exclusive indonésienne et a été invité à partir immédiatement. Cet incident est le troisième depuis 2016, en juin 2016 et début janvier 2020. Les navires chinois, la garde côtière, étaient également entrés dans la juridiction indonésienne alors qu'ils gardaient les navires de pêche du pays. La mer du Nord, Natuna, est la juridiction de l'Indonésie avec des droits souverains sur les ressources naturelles dans la colonne d'eau. Les navires étrangers sont autorisés à traverser, mais à condition qu'ils n'exercent pas d'autres activités qui sont contraires au droit national et international. Le gouvernement indonésien a vivement protesté contre la Chine concernant la présence de navires étrangers dans la mer Natuna. Le président Joko Widodo a également publié une déclaration ferme selon laquelle il n'y a pas de compromis sur la souveraineté de l'Indonésie. Pour montrer le sérieux du gouvernement indonésien dans la sauvegarde et la défense de son territoire, le président Joko Widodo a même immédiatement inspecté la situation à Natuna en embarquant sur le Kirasi indonésien Imam Bonjol 383 en juin 2016. De même, après l'incident de la rentrée des navires chinois en janvier dernier, le président est parti pour Natuna avec une puissance militaire maritime et aérienne. Le gouvernement chinois doit respecter ce qui a été convenu par la communauté internationale. La zone économique exclusive de Natuna a une base juridique solide. L'UNCLOS 1982 et cela a été confirmé à nouveau par la Cour permanente d'arbitrage, ce qui a été révélé dans le règlement des différends entre les Philippines et la Chine. Mon cher auditeur, c'est tout le commentaire. Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi Audrey. On commence l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 septembre 1901. Le président américain William McKinley a été assassiné lors d'une tentative d'assassinat secrète. Serge Litter, William McKinley Jr., né à Niles, Ohio, le 29 janvier 1843. William McKinley était le 25e président des États-Unis de 1897 à 1901. William McKinley était le candidat à la présidence du Parti républicain aux élections de 1896. Remportant plus de 7 millions de voix sur un total de près de 14 millions. Le président William McKinley a été réélu pour un deuxième mandat en 1900. 6 mois après sa deuxième investiture, il a visité l'exposition panaméricaine à Buffalo, New York, le 6 septembre 1901. Alors qu'il assistait à une réception, il a été abattu. Il est décédé le 14 septembre 1901. Chers amis, on continue avec l'événement du 14 septembre 1908. Balai Pustaka ou Commissie for the Vogue Lecture a été fondée. Chers amis, Balai Pustaka est une société publique spécialisée dans l'édition. Balai Pustaka a une longue histoire. L'existence de Balai Pustaka a commencé avec la formation de la Commissie for Inland School and Folk Tour le 14 septembre 1908. Ce n'est que le 22 septembre 1917 que Balai Pustaka a été créé en tant que continuation de la Commission for Inland School and Folk Lecture. À cette époque, des livres étaient publiés en malais et dans diverses autres langues régionales, comme le javanais, le sundanais, le madurai, le batak, le tchénien, le Bugis et le Makassarès. Balai Pustaka a été utilisé par des écrivains et des personnalités du mouvement comme Abdul Moussi pour sensibiliser le pays jusqu'à ce que le sermon de la jeunesse soit né le 28 octobre 1928. Plusieurs autres écrivains ont également partagé activement des pensées nationales à travers Balai Pustaka. Ils incluent Marah Rusli, Muhammad Yamin, Idrus Hamka, A Sultan Takdir Ali Shabana. Avant l'indépendance de l'Indonésie, Balai Pustaka a réussi à construire environ 2800 jardins de lecture populaire. Lorsque le Japon a commencé à envahir l'Indonésie, cette société n'a pas échappé à son influence. Son nom a changé en Gwinsekanbu Kokumin Toshokyoku, qui produit encore un certain nombre d'œuvres. Balai Pustaka était passé aux mains des Néerlandais en juillet 1947, lorsque les Néerlandais ont de nouveau tenté de contrôler l'Indonésie. Cependant, en 1949, Balai Pustaka a été renvoyé après que les Néerlandais ont officiellement reconnu la souveraineté de la République d'Indonésie. Chers amis, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 septembre 1961. Création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Chers amis, l'OPEP ou bien l'Organisation des pays exportateurs de pétrole est une organisation qui a pour objectif de négocier des questions de production, de prix et de droits de concessions pétrolières avec les compagnies pétrolières. L'OPEP a été fondée le 14 septembre 1961 à Bagdad, en Irak. À l'époque, il ne comptait que 5 membres. L'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Le siège de l'OPEP était initialement situé à Genève, 21 janvier 1961, août et 1966, puis transféré à Vienne, en Autriche. L'OPEP a pour objectif de maintenir la stabilité des prix internationaux du pétrole au profit de ses pays membres. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Resah dan gelisah menunggu di sini. Sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jauh sungguh aneh tapi nyata.
tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
c'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, la suite, voici mon Indonésie.
Sajritak, bonsoir, voici mon Indonésie et encore le titre. Le ministre de l'Agriculture souligne l'importance de l'agriculture pendant la pandémie lors de la réunion du G20. Le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yassin Limpo, a souligné le rôle important du secteur agricole et sa contribution au produit intérieur brut ou PIB de l'Indonésie au milieu de la pandémie de COVID-19, tout en assistant à la réunion virtuelle du ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation du G20 samedi. Le ministre de l'Agriculture, Syahrul, a souligné que la réunion du G20 était très importante dans les efforts visant à accélérer le développement agricole, compte tenu du rôle du secteur agricole au milieu de l'impact de la pandémie en étant le sauveur de l'économie du pays. Par conséquent, cette réunion est un forum de partage et de vote dans le contexte de la réalisation d'une agriculture durable et d'une sécurité alimentaire. Syahrul Yassin Limpo a déclaré que le rôle du secteur agricole en Indonésie est actuellement assez important, comme le montre sa contribution au PIB total atteignant 14% et fournissant des emplois à près de la moitié de la population totale. Il a également mentionné que la croissance du PIB du secteur agricole avait augmenté d'environ 2,19% par rapport à l'année précédente ou en glissement annuel. Au deuxième trimestre de 2020, l'agriculture a également enregistré des progrès de croissance allant jusqu'à 16,24% par rapport au trimestre précédent. Lors de la réunion, le ministre de l'Environnement du Royaume Arabe Saoudite, Abdurrahman Al-Fadli, en tant qu'hôte, ainsi que les ministres de l'Agriculture et de l'Irrigation des membres du G20, des représentants de pays et d'organisations internationales étaient également présents. Syahrul expliquait qu'au milieu des limitations causées par la pandémie de COVID-19, le gouvernement indonésien continue d'encourager le rôle important du secteur agricole dans la création d'emplois ruraux, de donner la protection sociale, d'augmenter les revenus des agriculteurs familiaux et d'assurer la sécurité alimentaire nationale. Pour maintenir la disponibilité de la nourriture pour tous à l'ère de l'adaptation de nouvelles habitudes, le ministère de l'Agriculture a développé un ensemble de politiques appelées « quatre façons d'agir ». Ce sont d'augmenter la capacité de production grâce à l'accélération des semis de riz, à la conversion de terres sous-optimales en terres agricoles et à l'expansion de nouvelles zones cultivées pour des produits stratégiques et de base. Deuxièmement, diversifier la nourriture locale en développant une diversification alimentaire basée sur la sagesse locale et l'utilisation des cours et des terres marginales. Troisièmement, renforcer les réserves alimentaires et les systèmes logistiques pour le développement de réserves alimentaires au niveau provincial et communautaire et améliorer le système national de la logistique alimentaire pour stabiliser l'œuvre et les prix. Quatrièmement, le développement de l'agriculture moderne grâce à la promotion de la mécanisation agricole, de l'agriculture intelligente, de l'utilisation greenhouse, food estate et la corporation d'agriculteurs. Yassine Limpo a ajouté que l'Indonésie continue également d'encourager l'utilisation de la technologie numérique et de l'innovation en tant que composante importante de la réalisation d'un système alimentaire durable, inclusif et résilient au milieu des chocs causés par la pandémie de COVID-19. Au cours de la réunion, sa partie a invité tous les ministres de l'Agriculture du G20 et les organisations internationales à collaborer pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le système alimentaire mondial. Serge Rita, CTM Indonésie pour ce soir.
Yeah.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons l'île de Saparua au Maluku. Restez à l'écoute. L'île de Saparua est une petite île insignifiante district située dans la région centrale de Maluku, dans la province de Maluku, en Indonésie. L'île de Saparua est à environ 80 km d'Ambon, la capitale de Maluku, et peut être atteinte en bateau rapide pendant 1,5 heures du port de Tulehut, Maluku Central, sur l'île d'Ambon. L'île de Saparua a beaucoup de belles natures à travers ses panoramas environnants et ses paysages sous-marins. Les plages ici ont les eaux claires et calmes. Des rangées de récifs coralliens sont stockées sur le fond marin à l'abri de l'exploitation. Vous pouvez trouver l'un des beaux paysages sur la plage de Kolur qui se trouve toujours dans la région de Saparua. Ici se trouve également l'un des meilleurs endroits pour voir le coucher de soleil sur l'île de Saparua. Vous pouvez également visiter l'île de Molana, qui fait toujours partie de Saparua. Cette île minuscule et exotique est encore rarement visitée par les touristes, donnant la sensation d'être sur une île privée. L'atmosphère calme et l'eau très claire sont une valeur ajoutée pour Molana. Pour y arriver, il vous suffit de prendre la traversée depuis l'île de Saparua pendant 45 minutes. La petite île d'une superficie de 247 km² offre non seulement un charme naturel, mais aussi des traces historiques de l'arrivée d'autres nations en Indonésie, à commencer par les commerçants arabes, portugais, hollandais et le dernier était le Japon. Pas étonnant, de plusieurs côtés, vous trouverez des vestiges uniques tels que d'anciens bâtiments portugais et hollandais, de vieux puits, jusqu'au célèbre port d'Ulstede. La forteresse de Dusted est l'une des destinations à visiter lorsque vous êtes sur l'île de Saparua. Si nous regardons la forteresse qui est encore solide, cela se reflète fortement sur la gloire de cette île dans le passé. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « L'île de Saparua au Maluku ». Merci de votre attention. À demain.
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu.
data keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'éducation et de la culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui et ayo mampir. Je répète, ayo mampir. En français, arrête-toi chez moi. Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Ayo mampir. Ayo mampir. en français, arrête-toi chez moi. Sur le chemin de la pension, Kevin a invité City à s'arrêter à sa pension.
Kosku di gang depan, City. Apa kamu mau mampir?
Apa kamu tidak repot kalau aku mampir ke kosmu?
Tidak apa-apa. Ayo mampir.
Baiklah.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ayo mampir. Ayo mampir, qui signifie arrête-toi chez moi. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Apa kamu mau mampir? Apa kamu mau mampir? Signifie tu veux t'arrêter chez moi? Kos. Kos signifie la pension. Gang. Gang signifie la ruelle. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa signifie ça va. Ayo mampir. Ayo mampir signifie arrête-toi chez moi. Apa tidak merepotkan? Apa tidak merepotkan signifie ça ne te dérange pas. Sedang ada acara. Sedang ada acara signifie il y a un rendez-vous. Mungkin lain kali. Mungkin lain kali signifie peut-être la prochaine fois. Mungkin lain waktu. Mungkin lain waktu signifie peut-être une autre fois. Pour inviter quelqu'un à s'arrêter chez vous, dites ayo mampir. Ayo mampir ou bien mari mampir. Mari mampir signifie arrête-toi chez moi. Pour y répondre, vous pouvez dire apa kamu tidak repot? Apa kamu tidak repot ou bien apa tidak merepotkan? Apa tidak merepotkan? En français, ça ne te dérange pas? La personne qui invite va dire tidak. Tidak en français, non. Ou tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En français, ça va. Par exemple, ayo mampir ke tempatku. Ayo mampir ke tempatku. Signifie arrête-toi chez moi. Apa tidak merepotkan? Apa tidak merepotkan? Signifie ça ne te dérange pas? Tentu tidak. Tentu tidak. Signifie non, bien sûr. Et si vous voulez refuser l'invitation, vous pouvez dire mungkin lain kali. Mungkin lain kali. Ou bien, mungkin lain waktu? Mungkin lain waktu? En français, peut-être la prochaine fois, ou peut-être une autre fois. Par exemple, mari mampir ke kosku. Mari mampir ke kosku. Signifie, arrête-toi à ma pension. Si vous voulez le refuser, dites saya sedang ada acara. Mungkin lain waktu. Saya sedang ada acara. Mungkin lain waktu. Ou en français, j'ai un rendez-vous, peut-être la prochaine fois. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Kosku di gang depan, Siti. Apa kamu mau mampir?
Apa kamu tidak repot kalau aku mampir ke kosmo?
Tidak apa-apa, ayo mampir.
Baiklah.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésie d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. On se rencontrera demain dont le sujet est différent. Merci de votre attention. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Thank you.
Bon, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Au revoir.